Radio Capi.
Oh Capi, Pierrot et la Mégie à la présentation.
Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. Examen d'État 2021 après la publication des meilleurs lauréats de la province du Katanga ce mercredi. Le ministère de l'EPST annonce pour demain jeudi la publication des résultats de toutes les autres provinces après la remise des résultats, des CD des résultats aux opérateurs des réseaux téléphoniques. La taxe RAM a déjà collecté plus de 25 millions de dollars américains, affirmation du ministre des Pétentiques ce mercredi à l'Assemblée nationale lors de la question orale avec débat lui adressé. Mais pour la majorité des députés, cette taxe devrait être purement et simplement supprimée car qualifiée de simple escroquerie. Augmentation des cas de VIH/SIDA à Beni-Boutembo et Loubero depuis 3 mois, annonce le coordonnateur du programme national de lutte contre le SIDA PNLS dans le Grand Nord de la province du Nord Kivu. Et avant la fin de ce journal, nous en parlerons avec lui bien sûr, le docteur Nikez Maté, coordonnateur du PNLS à Beni-Boutembo. Il est l'invité de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST a publié ce mercredi sur ses comptes Twitter et Facebook la liste des meilleurs lauréats de la province du Haut-Katanga. C'est l'élève Angie Kulenduka Musamba qui vient en tête avec 89% en commercial et gestion. Cette première phase de la publication des résultats marque la fin des corrections des épreuves de l'examen d'État édition 2021. Alain Irung nous parle des lauréats des autres options de la province du Haut-Katanga.
Option latin philosophie, Mademoiselle Ilunga Banze Angèle du complexe scolaire Galaxy, 83%. Option mathématiques physique, Mademoiselle Mpuchila Leila, également du complexe scolaire Galaxy, 84%. Option chimie biologie, Mademoiselle Omba Mutombe Deborah de l'Institut Mungoti, 87%. Option science, l'élève Kabash Chiouk Gabriel de l'Institut Imara, 75%. Option pédagogie générale, Kabang Mbouya Sylvain du complexe scolaire Galaxy, 84%. Ex-aequo avec Mademoiselle Asma Youssouf du complexe scolaire Les Aiglons, 84%. Le ministère de l'EPST affirme que le retard avec lequel ces résultats sont publiés se justifie par l'effet croissant des candidats finalistes qui a pesé dans la correction des items. Et le ministre l'avait prévenu le 2 septembre 2021, lors de son passage à la grande édition du journal télévisé sur la RTNC, une date qui a coïncidé avec le 4e et dernier jour de ces épreuves, affirme le ministère. Pour rappel, c'est le ministre de l'EPST Tony Mwaba qui avait lancé la session ordinaire de l'examen d'État 2021 le 30 août dans la province du Kwango, dans la ville de Kenge. Près de 800 000 finalistes ont pris part à ces épreuves en RDC et dans certains pays voisins.
Et selon le ministère de l'EPST, les résultats des autres provinces seront disponibles déjà à partir de ce jeudi 30 septembre 2021, après la cérémonie des remises officielles des CD des résultats aux opérateurs des réseaux téléphoniques par le ministre Tony Mwaba Kazadi. Début ce mercredi à l'Assemblée nationale de l'examen de la question orale avec débat adressée au ministre Augustin Kibasa sur la taxe RAM. La plénière s'est déroulée sous tension avec plusieurs épisodes d'incidents. Dans son intervention, le ministre des Pétentiques affirme que cette taxe a déjà collecté plus de 25 millions de dollars américains et grâce aux fonds collectés, certaines universités bénéficient d'un Wi-Fi gratuit et plus de 500 téléphones volés ont été retrouvés. Dans le débat, tous les députés ayant pris la parole ont été unanimes à la suppression pure simple de ces taxes qualifiées de simples escroqueries. Certains ont même exigé la démission du ministre Augustin Kibasa. Michel Kifindangoy.
C'est dans cette ambiance d'agitation que les députés ont exigé non seulement la suppression sans condition de la taxe RAM, mais aussi la démission du ministre des Pétentiques, Hubert Furukuta.
Nous exigeons le retrait immédiat de la taxe RAM, qui est déjà une torture en plus d'État contre le peuple. Nous prions le bureau de l'Assemblée nationale de commanditer une mission urgente d'audit sans complaisance sur la destination de l'argent du RAM. Messieurs les ministres, et priez d'exprimer sa considération vis-à-vis du peuple par sa démission immédiate.
Pour la quasi-totalité des députés nationaux, cette taxe est une véritable escroquerie de l'épargne des Congolais et s'oppose à l'idéologie du peuple d'abord. Léon Mondolé.
Si nous suivons la grogne de notre peuple,
peuple.
Cette taxe est antisociale, anti-peuple. Que les ministres prennent la hauteur de retirer cette taxe qu'il a créée sans avis de l'Assemblée nationale et sans référence à aucun texte.
Les débats ayant été suspendus par motion de Jean-Baudouin Maillot, le ministre Augustin Kibasa, qui s'est dit choqué d'être traité d'escroc, a sollicité 48 heures pour sa réplique.
Bilan à mi-parcours de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme note des améliorations sur les plans sécuritaires, mais fait part également des violations et atteintes des droits de l'homme attribués aux forces de sécurité. Le directeur de cet organisme de l'ONU l'a souligné ce mercredi 29 septembre au cours de la conférence de presse tenue à Kinshasa et en vision conférence à Goma, Beni et Butembo. Un extrait des propos d'Aziz Abdoul Choi, choisi par Honoré Misengakala.
L'état de siège a permis de mettre sur pied un cadre permanent permettant à l'État d'agir contre les groupes armés et à favoriser un mouvement de reddition de certains combattants. Il a également permis la sécurisation de certains axes routiers et la libération de certaines localités de la présence des groupes armés. Toutefois, malgré l'observation de ces améliorations que j'ai citées et qui concernent la situation sécuritaire dans ces provinces, des défis en matière de protection des civils demeurent. Les violations et atteintes aux droits de l'homme documentées dans les provinces sous état de siège n'ont pas diminué de façon significative et de nombreux défis continuent de se poser en ce qui concerne notamment les violations commises par les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de leurs opérations.
Au cours de la même conférence de presse, le porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilman, a pour sa part annoncé la présentation, le 5 octobre prochain, au Conseil de sécurité, par la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, du dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur la RDC. Un rapport dans lequel est inclus le plan de transition conjoint, gouvernement MONUSCO, lequel définit les priorités à atteindre entre 2021 et 2024, dont sera tributaire un retrait progressif, responsable et durable de la mission. Marche de partisans de la coalition Olamuka Kinshasa, la marche projetée était maintenue ce mercredi par le regroupement politique Nogec alors que Olamuka l'a reporté au 16 octobre prochain. On apprend que Constant Mutamba, le coordinateur de Nogec, a été interpellé avec trois de ses militants par la police. Ils ont été pris par la police au niveau de la morgue de l'hôpital Roi Baudouin dans la commune d'Injili alors que la police a dispersé les manifestants. On écoute Evariste Mabaya, un membre de Nogec, au micro de Paul Matendo.
Nous avons commencé la marche vers Saut des Moutons Pascal pour réclamer la dépolitisation de la CENI et les consensus autour des réformes électorales. Avancé vers le boulevard Kimbuta, la police est venue s'interposer, la police est venue brutaliser nos militants, arrêter le président et jusqu'à maintenant où je vous parle, ils sont encore détenus quelque part et nous réclamons, nous demandons leur libération immédiate et sans condition.
Par ailleurs, dans la ville de Mbujimayi au Kasaï oriental, la marche organisée ce mercredi par quelques militants de la Mouka a été empêchée par les éléments de la police nationale congolaise. Certains d'entre eux ont été interpellés sur l'avenue de l'évêché avec un calico en main où on pouvait lire non à la politisation de la commission électorale nationale indépendante CENI. Les membres de la Mouka se rendaient à l'Assemblée provinciale pour déposer leur mémorandum. La proposition des lois dites Tchani était une distraction. Le plus important aujourd'hui, c'est l'amélioration du social des Congolais. C'est la déclaration de Moïse Katumbi-Chapwe lundi dernier à Goma lors de sa visite humanitaire au sinistré de Nyiragongo. Le président national du parti politique Ensemble pour la République réagissait aux propos du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, exprimant son point de vue sur la proposition de cette loi lors de son dernier voyage à New York. Pour Katumbi, la position du chef de l'État met fin à la polémique sur cette question. On écoute son extrait choisi par Sifa Maguru.
J'ai suivi le chef de l'État, c'était aux États-Unis. Je crois qu'il a tranché. Pour moi, c'était une distraction. Le Congo n'a pas besoin de la division. On ne doit pas être distrait. Le plus important pour le Congolais, c'est le social, la situation économique de notre pays, la souffrance de la population congolaise. S'il y a une loi pour améliorer la situation de la population congolaise, ça je serais d'accord avec n'importe qui. Si nos officiers ou les enseignants vont toucher un jour 300 dollars, là je serais d'accord de faire cette loi, parce qu'aujourd'hui, la situation économique est terrible. Je sais que le gouvernement a hérité ça, il y a des efforts à faire. Le plus important pour nous, c'est le Congo, donc le social de la population.
Rappelons que cette proposition de loi qui consacre l'accès à la magistrature suprême au Congolais des pères et des mères n'a pas été retenue dans le calendrier des matières à débattre au cours de la session de septembre à l'Assemblée nationale. Et en bref, dans le territoire de Niragongo, la population affirme n'avoir jamais reçu les 300 000 dollars américains dont de la communauté katangaise destinés aux sinistrés de l'éruption du 22 mai 2021. L'octroi de ces dons par l'entremise du gouvernement congolais a été rappelé lundi par le président du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, lui-même en visite dans la région. La société civile locale déplore l'opacité dans la gestion des fonds destinés aux sinistrés et plaide auprès du gouvernement pour la remise de ces sinistrés dans leurs droits. Dans la province du Maniema, l'association des défenseurs des droits de l'homme et de l'encadrement de la jeunesse alerte sur la situation sanitaire des enfants mineurs dans la prison centrale de Kindu. Son président provincial, Ngombi Ferdinand, fait savoir qu'il existe parmi ces enfants un mineur qui est dans un état critique et sans aucune assistance. Ce dernier sollicite une intervention urgente des autorités et hommes de bonne volonté pour sauver la vie de cet enfant. Ngombi Ferdinand explique cette situation dans ce propos recueilli par Florence Kizalunga.
Nous avons eu douleur de passer aujourd'hui à la radio pour crier auprès des autorités, même d'autres organisations de la protection des droits de l'homme et des droits de l'enfant, compte tenu de la situation qui s'observe ces derniers temps dans la prison centrale, précisément au quartier spécial des mineurs. Là où nous trouvons, il y a parmi les mineurs, il y a ceux qui sont malades, mais il manque aussi des soins appropriés. Peut-être aujourd'hui ou bien lendemain, on peut quand même à résister des cas de mort. C'est pourquoi nous demandons auprès de tout le monde, même aux autorités provinciales qui changent d'abord pour les cas aussi des tribunaux pour l'enfant, comment on pourrait quand même laisser les tribunaux pour l'enfant comme ça, sans pourtant ou de donner aussi des financements, de contrôler comment nos mineurs, nos enfants sont là. C'est pourquoi nous demandons que tout le monde puisse d'abord veiller comment les enfants doivent nécessairement être protégés au lieu que nous à résister des cas de décès au niveau des prisons centrales, quartiers spéciaux des mineurs, mais ce problème aussi de oui, ils sont toujours inondés. Ça peut créer aussi des maladies.
Information confirmée par le directeur de la prison centrale de Kindu, Paul Ilunga Lukengo, qui parle d'une situation qui mérite d'attirer l'attention de tout le monde. En Ituri, plus de 9000 enfants déplacés du site de Kingoze à Bunia ne vont pas à l'école. Selon la vice-présidente de ce site, seuls 1000 enfants ont été inscrits dans une école sur place et dans d'autres établissements de la ville. D'autres restent à la maison depuis au moins deux ans, faute de moyens pour acheter les fournitures ou payer les frais scolaires. Les responsables du site lancent un cri d'alarme au gouvernement pour garantir les droits de ses enfants. Isaac Remoyope.
Les sites de déplacés de Kigonze au quartier Muzipela hébergent environ 10 000 enfants en âge scolaire, dont environ 5 100 filles. Parmi eux, moins de 10% vont à l'école. De nombreux déplacés veulent scolariser leurs enfants, mais ils n'ont pas de moyens et même pour leur survie. Une mère qui a 10 enfants dit qu'un seul est inscrit à l'école. Dans d'autres familles, tous les enfants ne vont pas à l'école et sont devenus des mendiants dans la ville. Une fille de 15 ans dit avoir renoncé aux études car son âge ne correspond plus à son niveau d'études après 3 ans de chômage. Elle a décidé de renoncer aux études. Elle s'est déjà mariée et est maintenant mère d'un enfant.
J'étais en cinquième année primaire, ça fait déjà 3 ans que je chôme, nous avons grandi, d'autres sont des enfants et ils nous appellent des mamans. Nous avons honte, nous n'avons pas de moyens de payer la collation.
Selon la vice-présidente du site, le gouvernement a construit une école qui peut accueillir seulement 426 élèves dans les camps. Elle plaide pour la construction d'autres bâtiments scolaires au site. Cependant, pour elle, la solution durable est l'imposition de la paix pour leur permettre de retourner dans leur village d'origine.
Il y a 10 000 enfants aussi. Donc, si le gouvernement était animé de bonne foi, il devait nous construire d'autres bâtiments pour qu'on reste sur la paix.
De son côté, le gouverneur a annoncé le lancement de la campagne de scolarisation des enfants avec les concours des partenaires. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Rendons-nous au Kasaï oriental pour parler de la recrudescence des cas de criminalité en Mbujimayi. Malgré l'instauration du couvre-feu sur l'étendue de la RTC, la ville de Mbujimayi fait actuellement face à quelques cas de criminalité. Toutes les communes sont touchées par cette situation. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise dit reconnaître les faits et lie cette situation à quelques facteurs, dont notamment l'arrivée des groupes de bandits en provenance de Lubumbashi dans le Haut-Katanga et la grâce présidentielle accordée aux anciens voleurs qui ne se sont pas convertis pendant la période de leur incarcération. d'arrestation à la prison centrale. Origen Singa demande à la population de collaborer avec la police pour mettre hors d'état de nuire les malfrats qui troublent la quiétude de la population. Roger Singa, commissaire provincial de la police au Kasaï-Oriental, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Nous sommes en train de lutter activement contre cette montée d'insécurité, mais je dois vous dire que moi je ne suis pas surpris. Vous devez savoir que, d'abord, l'insécurité zéro n'existe pas. Malheureusement, nous assistons ces derniers temps effectivement à une multiplication de cas. Mais nous aussi, à notre niveau, nous prenons des dispositions et des stratégies pour faire face à ça. J'avais dénoncé à l'époque le fait qu'il y avait un groupe de bandits en provenance de la province du Haut-Katanga qui était en route vers ici. Et nous avons aujourd'hui presque la preuve que ce groupe de bandits se trouve ici sur place. Nous sommes en train de les rechercher. Il y a eu dernièrement la relaxe de plusieurs bandits sur ordre de la haute hiérarchie du pays, la grâce présidentielle. Et nous constatons malheureusement que chaque fois que cela arrive, il y a toujours une montée de fièvre en ce qui concerne l'insécurité. Et n'oubliez pas que nous approchons également des fêtes de fin d'année. Ces gens-là, sont eux aussi, ils cherchent des moyens pour bien passer la période de fin d'année. Nous faisons notre travail et nous faisons tout pour que cette situation ne s'aggrave pas. Vous hébergez un criminel, vous-même vous n'êtes pas en sécurité, vous devez le dénoncer, quel que soit le niveau de fraternité ou de parenté que vous avez avec cette personne.
Notons qu'il y a quelques temps, les grandes villes du Haut-Katanga étaient aussi en proie à l'insécurité. Les sources proches de la police indiquaient à cette époque que la plupart des bandits venaient d'autres provinces, dont le Kasaï, notamment des anciens creuseurs clandestins des minerais appelés suicidaires.
Actualité internationale.
Accusé de viol par une musicienne, le ministre ivoirien de la réconciliation, Kouadio Kona Bertin, fait l'objet d'une plainte déposée par la jeune femme. Le ministre a porté plainte également depuis plusieurs jours des accusations circulées sur les réseaux sociaux contre Kakabé, comme il est appelé, qui a évoqué l'affaire lors d'une émission sur la RTI à laquelle il participait mardi soir, déclarant n'avoir rien à se reprocher.
L'invité.
C'est Dr Nikez Maté, coordonnateur de PNLS à Beni-Boutembo-Loubero, qui revient sur l'augmentation des cas de VIH-SIDA à Beni-Boutembo-Loubero. Il s'entretient avec Martial Papimoukeba.
Dr Nikez Maté, bonjour.
Bonjour Radio Capi.
Confirmez-vous l'augmentation des cas positifs du VIH-SIDA dans la région de Beni-Boutembo et Loubero?
Nous sommes devant des statistiques qui nous indiquent une légère augmentation des cas de VIH par rapport aux cas reçus dans les structures que nous accompagnons. Faisons une compilation de tous les cas qui viennent dans les zones de santé. Nous avons à peu près 17 zones de santé, 17 hôpitaux généraux. Nous avons aussi des structures, à peu près 150 structures dans lesquelles nous recevons des malades pour les dépistages. Les statistiques nous indiquent que nous avons reçu 34 039 personnes qui ont fait le dépistage, et dans ce nombre-là, nous avons obtenu à peu près 654 cas positifs. Ça signifie quoi? Ça signifie que théoriquement, les gens qui viennent spontanément, les gens qui viennent pour le dépistage, le trimestre ici, les cas positifs étaient plus nombreux que les cas du trimestre passé, qui était autour de 536. Là, nous ne pouvons pas encore dire prévalence, c'est seulement la positivité qui a augmenté.
Qu'est-ce qui est à la base de l'augmentation des cas positifs du VIH-SIDA à Beni-Boutembo et Loubero?
Nous sommes dans une zone à conflit. C'est une région où il y a beaucoup de cas de déplacés, les gens qui fuient les atrocités. Et dans les conditions des déplacés, il y a trop de vulnérabilité chez les déplacés, particulièrement les femmes et les jeunes filles. Et dans cette vulnérabilité économique, il peut y avoir des rapports sexuels non protégés et probablement la propagation de la maladie pourrait être facilitée. Mais aussi, nous avons augmenté notre technique de faire le counseling, de faire la consultation. Je vous donne l'exemple de l'hôpital général de Beni. Nous avons amélioré les conditions de faire le dépistage. Nous avons amélioré les box de consultation qui garantit la confidentialité. Parce que nous avons constaté que souvent la population ne voulait pas passer dans les structures pour le dépistage quand elle n'est pas sûre que la confidentialité est garantie. Et nous avons fait cette expérience avec l'hôpital général de Beni. On a amélioré les box de consultation. Et par rapport au trimestre passé, il y avait des mois où on était autour de 10, 15 cas positifs, donc on pouvait détecter. Mais les dernières statistiques ici nous donnent autour de 25, 30 cas qu'on peut maintenant détecter mensuellement.
Là, c'est uniquement à l'hôpital général de Bénin.
Oui, ça c'est l'exemple de l'hôpital général de Bénin. Alors nous avons donné les mêmes conseils aux autres hôpitaux pour qu'on améliore la capacité à détecter.
Avez-vous des craintes par rapport à cette situation?
Oui, vous savez que le VIH, c'est une maladie qui se transmet par voie sexuelle. Et normalement, la population sexuellement active, c'est entre 15 ans et 49 ans. Aujourd'hui, la majorité de la population de notre pays, et même de notre province ici, c'est une population jeune. Donc, quand le VIH est en train de se promener comme ça, nous, nous avons peur que les éléments que nous avions maîtrisés avant risque de nous échapper. Donc nous avons peur que la maladie refasse encore surface et que le nombre de personnes touchées ne puisse augmenter.
Et qu'est-ce que vous conseillez pour limiter cette propagation ou éviter l'explosion des cas?
Nous souhaitons que des sensibilisations puissent être réalisées dans la communauté, auprès des jeunes, auprès des commerçants, des motards, des hommes en uniforme, par rapport à la prévention. Parce que nous savons tous que pour se protéger, il faut les dépistages, l'abstinence, il y a la bonne fidélité, il y a aussi l'utilisation du préservatif. C'est pour ça que nous faisons vraiment un plaidoyer pour que la population revienne aux bonnes habitudes. Je voudrais aussi signaler que depuis un certain temps, à cause de l'épidémie de COVID, il y a eu beaucoup de relâchements. On a pensé que il n'y a que COVID qui est là, et même avec Ebola, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis pour la lutte contre Ebola. Il y a eu beaucoup de moyens qu'on a mis pour la lutte contre le COVID. Malheureusement, beaucoup de nos partenaires, les ONG locales, ceux qui nous appuient, donc ceux qui nous accompagnent, les gens avec qui nous travaillons pour la lutte contre le VIH, ils n'ont pas reçu assez de moyens et malheureusement, la sensibilisation a baissé un peu.
Docteur Nikes Maté, merci.
Je vous en prie.
Et ce journal a été mis en onde par Jean-Claude Siala, coordonné et supervisé par Alain Rung. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos informations sur www.radiocapi.net.